Je vous invite dès à présent à ouvrir dans 1 Pierre chapitre 5. On finit la série aujourd'hui sur l'épître, la première épître de Pierre. Donc c'est une joie de terminer cette série et on va voir tout particulièrement que vivre à contre-courant, comme on l'avait vu dans tout l'épître, c'est une vie à contre-courant que nous sommes amenés à vivre puisque notre foi n'est pas comprise ou est souvent calomniée. Et on verra que vivre cette foi véritable en Jésus-Christ, nous amène à désirer la protection, sa protection toute particulière. On verra notamment sa protection sur les dangers. Je lis donc 1 Pierre chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Nous sommes déjà salués ce matin pour terminer cette épître. Lors des dernières semaines en France, on a connu pas mal de tempêtes. On a vu que le long du littoral, plusieurs plages ont été fermés, du moins il y avait un avertissement de la population, de la municipalité pour que aucun ne s'y aventure. Mais malgré ces avertissements, certains se sont aventurés pour prendre une photo, pour prendre peut-être une sensation forte, risquant leur vie. À l'inverse, certaines personnes plus raisonnables ont pris conscience du danger et sont restées abritées chez elles, n'ont pas été médiatisées, puisqu'elles sont restées chez elles. Peut-être même étaient-elles moquées, peut-être vues comme peureuses, vues comme un manque d'aventure. Mais peut-être étaient-ce plus sages. Et c'est un peu le sentiment que nous avons, en tant que chrétiens dans ce monde, conscients que la vie chrétienne va nous faire entrer en lutte face à des dangers réels. Notre chair, on l'a évoqué tout à l'heure, notre chair est si faible. Notamment. Et nous faisons des choix qui sont à contre-courant. Donc, nous sommes appelés à vivre conformément à Dieu. Et Dieu est saint. Ce qui nous donne ce même sentiment, un peu, d'être étrangers, exilés. Pierre compare la vie sur terre à un temps de pèlerinage durant lequel notre foi sera mise à l'épreuve. Et il nous met en garde sur de réels dangers qui guettent le chrétien. Des dangers. Notamment le danger de l'orgueil, ce fléau très fréquent, ce mal qui divise et qui irrite la colère de Dieu, on voit au verset 5, on l'a lu, Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, ça peut être défini comme avoir une trop haute opinion de soi-même, c'est se tromper au sujet de notre force, de la réalité de notre état. Et quand l'épreuve vient nous déstabiliser, nous tombons. Prouvant ainsi qu'on manquait de réalisme sur nos propres faiblesses. Mais notre orgueil est beaucoup plus dévastateur que ça. C'est notre orgueil qui nous convainc faussement que nous n'avons pas besoin du secours de Dieu. Par notre orgueil, nous pensons, pourquoi Dieu t'es-tu abaissé pour venir me chercher? Pourquoi as-tu envoyé ton fils? Notre orgueil nous convainc que nous n'avons pas besoin du pardon de Dieu, que nous ne sommes pas pécheurs. Voilà le drame de notre orgueil. Il maximise notre opinion de nous-mêmes et ridiculise le secours de notre Dieu, ce plan si merveilleux en Jésus-Christ. Puis vient le deuxième ennemi, notre adversaire le diable. Au verset 8, il le décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est donc un adversaire à prendre au sérieux, une puissance destructrice. Jésus nous en parle aussi dans Jean chapitre 8 comme étant meurtrier dès le commencement et il ajoute qu'il est le père du mensonge. Et ensuite, troisième ennemi, le monde. Et qu'est-ce que signifie le monde? On peut déjà voir que Pierre nous en parle au verset 13 lorsqu'il mentionne Babylone. Il fait vraisemblablement référence au milieu hostile dans lequel Pierre écrit sa lettre. Lui-même était ce chrétien exilé à Rome, appelé à se conformer à Dieu malgré les calomnies des contemporains. C'est pour ça qu'il va comparer Rome à Babylone, vraisemblablement. Et le monde, ce n'est pas tant les individus de ce monde, car nous savons que Dieu a tant aimé le monde. C'est plutôt l'esprit d'une société qui ne se réfère pas à Jésus-Christ comme Seigneur, qui ne connaît ni le Père, ni le Fils, qui ne connaît pas l'amour du Père pour le monde. C'est un esprit qui méprise la sainteté de Dieu, qui ridiculise l'obéissance, qui va ridiculiser la foi chrétienne et va au contraire valoriser les œuvres des ténèbres, les œuvres destructrices, et nous les présente comme séduisantes. Alors, si vivre notre foi à contre-courant face aux influences du monde nous amène à faire face à ces trois dangers que sont le monde, le diable et notre propre orgueil, je pense que c'est nécessaire pour nous de voir comment Dieu nous protège, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant tout, si vous n'êtes toujours pas convaincu de devoir chercher la protection, nous pouvons lire dans la prière de Jésus, au chapitre 17 de Jean. Donc Jésus prie pour que nous nous préserver du mal. Je vous lis, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, préserver du mal. Jésus prie son Père, pardon, pour nous préserver du mal. Donc, on va voir qu'est-ce que Dieu met en place pour nous préserver du mal. Mais avant tout, laissez-moi vous raconter une petite blague qui va nous faire réfléchir. Un curé est pris dans les sables mouvants. Alors qu'il s'enfonce jusqu'aux chevilles, un camion de pompiers passe par là et un des pompiers l'interroge. « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?»« Ce n'est pas nécessaire, » répond le curé. « Le Seigneur me viendra en aide. » Alors le curé s'enfonce jusqu'à la ceinture, le camion de pompiers repasse. Les pompiers posent la même question. « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?»« Ce n'est pas nécessaire, » répond le curé. « Le Seigneur me viendra en aide. » Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent une troisième fois. « Vous n'avez toujours pas besoin d'aide ?»« Ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide. » Alors le curé s'enfonce complètement, et lorsqu'il arrive au paradis, il dit au Seigneur, « Je suis vraiment déçu, je pensais vraiment que tu me viendrais en aide. » Le Seigneur lui répond, « Je t'ai envoyé trois fois les pompiers, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. » Cette histoire nous fait rire parce qu'elle ressemble un peu à notre manière d'agir. Si on désire la protection de Dieu, pourquoi sommes-nous entêtés et aveugles sur les moyens que lui-même a établi et choisi pour nous protéger? Et se peut-il que derrière mes airs de super disciple indépendant se cache en réalité un orgueil et un manque de réalisme sur mes faiblesses? Si vous avez dit Amen au verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles, alors je vous invite à réfléchir ainsi. Si c'est à Dieu que vous voulez vraiment attribuer toute la puissance et la gloire, comme on l'a chanté ce matin, alors c'est auprès de lui qu'on va trouver, qu'on va chercher les moyens d'être protégé des dangers. Au contraire, si je crois pouvoir m'en sortir seul par mes moyens, c'est synonyme que je veux aussi la gloire pour moi et la puissance pour moi aux yeux des hommes. Et selon ce chapitre 5, la protection de Dieu revêt un aspect concret. Pas seulement invisible, c'est vrai, il y a une part invisible, mais dans ce chapitre, il y a un aspect concret. Et on va premièrement voir que Dieu nous protège à travers nos responsables dans l'Église. Donc on avait vu précédemment dans l'Épître que Dieu avait établi les autorités du monde. Et dans ce texte, on voit que c'est encore la volonté de Dieu qu'il y ait des responsables dans l'Église. Pierre se présente comme ancien, tout comme ceux à qui il s'adresse. Dieu va donner des anciens, des responsables, pour avoir fonction de prendre soin du troupeau, paître le troupeau ici. Autrement dit, s'occuper des besoins spirituels de la communauté. Réfléchissons à une comparaison entre la responsabilité vue par le monde et la responsabilité décrite dans ce chapitre, donc selon l'Évangile. La responsabilité dans le monde est vue comme une contrainte. Et elle est exercée souvent en dominant pour servir ses propres intérêts. À l'inverse, la responsabilité selon l'Évangile est une offrande volontaire. On voit que Pierre dit volontairement, il y a ce mot mis en avant, en étant un modèle en parole, en attitude et en service. C'est assez contrasté. Là encore, la responsabilité dans le monde, nous l'exerçons souvent pour un gain. Responsabilité selon l'Évangile avec dévouement. Et encore dans le monde, nous voulons souvent être puissants aux yeux des hommes, que les hommes puissent nous attribuer toute la gloire. Et verset 11, on voit l'élan du cœur de Pierre, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Donc, comme exemple de responsable dans l'Église, j'ai une photo pour vous. Voilà à quoi ça ressemble. Donc le responsable ressemble plus à un berger qui porte des brebis qu'un chef d'entreprise médiatisé. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours notre réflexe de voir les responsables comme des bergers qui sont dans la même équipe que nous, qui veulent notre bien. Pierre, il sait que c'est un défi pour les pécheurs que nous sommes. En fait, naturellement, nous n'aimons pas l'autorité. Premièrement, parce que nous sommes nés rebelles à Dieu, rebelles à son autorité. Nous ne sommes pas naturellement tournés vers Dieu dès notre naissance. Et que dire de l'autorité des hommes ? Nous avons sûrement en tête plusieurs souvenirs d'une autorité humaine abusive. Peut-être en entreprise, dans votre famille, et peut-être pire, dans l'Église. Que faire de ça ? Mais lorsque le cocktail du diable, des influences du monde et de notre propre orgueil se mélange, tout ça, sans compter sur le secours de Dieu, bien évidemment, c'est certain que rien de bon ne va arriver dans ma vie de foi. Alors, constatant l'état de notre cœur, si vous êtes comme moi, enclin naturellement à vous rebeller à l'autorité, il nous faut constamment reconnaître dans nos prières au Seigneur que nous avons de la peine à envisager joyeusement une attitude d'humilité dans nos relations fraternelles et notamment vis-à-vis de l'autorité. Et au contraire, si nous reconnaissons humblement cet état désespérant, nous lâchons au Seigneur, nous abandonnons nos résistances, nous pouvons être réconfortés puisque c'est déjà un signe d'humilité de reconnaître devant Dieu notre incapacité. Pierre rappelle cette bonne nouvelle, Dieu fait grâce aux humbles. Et je reviens sur un petit témoignage de notre vécu avec Claire. Il y a 4 ans, on est arrivé dans cette église, les anciens ont été très accueillants, ils ont pris du temps pour nous connaître, écouter nos besoins spirituels. Je sentais qu'il y avait chez eux une préoccupation particulière de l'âme des gens. Aussi, j'ai vu dimanche après dimanche leur persévérance, puisqu'il continue à exercer cette hospitalité auprès de nouvelles personnes. Il continue aussi à persévérer dans l'enseignement de la parole, chaque semaine. Et c'est ce genre de modèle rassurant, d'hommes persévérants, prenant soin de leur famille, de leur église, et qui me donnait envie, ce désir de leur ressembler et de servir aussi mon église. D'ailleurs, en parlant de service, je me souviens qu'une fois que nous avions décidé de fréquenter cette église et de devenir membre, un des responsables nous a posé la question « Comment est-ce que vous voyez servir dans cette église ?» J'étais d'ailleurs très content d'entendre cette question. Ça allait dans ma compréhension de la bonne nouvelle. Si nous pensons que Jésus a servi, a donné sa vie pour nous, il nous appelle aussi à l'imiter. Et je pense que ça allait tout à fait dans la logique de l'évangile. Et bien sûr, je ne parle pas de situations compliquées ou de saisons de vie particulières, ou peut-être frustrantes. Je me souviens avoir été frustré d'une situation où je ne pouvais pas servir comme je l'aurais voulu, du moins, et à cause d'un problème de santé. Et beaucoup de frères ont prié pour moi, et je devais accepter que pendant cette saison de vie, c'est les frères et sœurs qui allaient me porter dans leurs prières. Et à la fin de ce temps, j'ai eu un temps ici, justement, sur cette estrade, il y a environ 2 ans, avant une opération, je partageais des nouvelles de ma santé. Et je me souviens d'un temps de questions-réponses où une sœur, qu'on connaissait à peine à l'époque, nous demandait « Sinon, comment peut-on vous aider concrètement ?» Claire et moi avons été touchés par cette question, cette préoccupation concrète de notre sœur Dita. Elle nous connaissait que très peu et sa question témoignait de son hospitalité. Et nous nous sentions comme à la maison ici, alors que nous étions Toulousains depuis très peu d'années. Nous étions en famille à l'EBTM. Tout ça pour dire qu'il est évident que la Bible a des exigences précises sur les responsables dans l'Église, mais chacun des membres peut aussi refléter Christ, et de bien des manières, comme l'exemple que je viens de citer. Et notre exemple parfait, Jésus-Christ, exemple parfait d'obéissance à la volonté du Père, n'a pas dicté à son Père ses désirs égoïstes. Au contraire, il a soumis toute sa vie à la volonté du Père, mettant de côté ses privilèges de fils unique de Dieu et allant au contraire jusqu'à donner sa vie, pour nous à la croix, mourant à cause de nos péchés. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Voilà l'amour parfait de Dieu. Un amour que nous ne pouvons pas produire. Seul le seul juste, Jésus-Christ, pouvait donner sa vie parfaite pour nous. Et lorsqu'on lit au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pierre, en écrivant ces lignes, est très conscient de la bonne nouvelle. Il est conscient du pardon de nos péchés en Jésus-Christ, un pardon tout accompli par la croix, par son œuvre, pas par notre obéissance. C'est pour ça qu'il nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il est conscient que autant grand est l'amour de Dieu, autant grand est sa puissance. Et il est assez solide pour prendre tous nos péchés, toutes nos culpabilités, notre honte due à nos fautes. Si vous pensez vraiment que Dieu est amour, parfaitement amour et parfaitement puissant, eh bien Pierre nous invite, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Il nous invite à nous décharger plus que nos soucis même, notre honte, notre péché. Alors c'est vrai, il y a beaucoup d'impératifs dans le chapitre 5, mais ils sont fondés sur l'exemple de Jésus-Christ. L'exemple, le protecteur par excellence, qualifié de souverain pasteur au verset 4. C'est grâce à lui d'ailleurs que nous pouvons répondre à l'appel que Pierre nous lance, à savoir de résister au diable avec une foi ferme. Dieu nous protège par un appel à résister avec une foi ferme. Et qui connaît les ruses du diable mieux que celui qui l'a vaincu ? Si Dieu a vaincu, le diable, ce que nous croyons. C'est donc à travers sa parole, la parole de Dieu, qu'on va comprendre comment s'en protéger. Je vous relis verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est important d'avoir une juste appréciation du diable. Et parfois, nous l'oublions tout court. Ou bien nous minimisons son impact. La Bible, au contraire, le met en lumière comme étant menteur, le père du mensonge, ou encore comme celui qui pêche et qui a été meurtrier dès le commencement. Et plus nous prenons au sérieux cette dangerosité, plus nous allons chercher la présence protectrice de notre Dieu. Par exemple, si je dois vaincre ça, ou m'en protéger, ce n'est pas très difficile. J'ai plutôt envie d'aller faire un câlin à cet ours ou jouer avec. Au contraire, si je dois vaincre ça, il me faut un plus grand secours. Pierre compare le diable à ce lion rugissant. Et versets 7 et 8, Pierre nous encourage à être sobres, à veiller face à ce lion rugissant. Tout cela avec une foi ferme. Mais d'abord, qu'est-ce que signifie veiller? Alors veiller, l'exemple pendant une guerre, par exemple, un veilleur a pour fonction de garder un œil sur ses compatriotes, sur sa tranchée et sur le front du combat pour voir si l'ennemi s'approche. Il doit auparavant s'être protégé par un gilet pare-balles, par une éventuelle arme, pour se défendre. Il faut premièrement que le veilleur ne dorme pas, c'est important. Et s'il apprend à connaître les pièges de son ennemi, c'est encore plus intéressant pour sa stratégie de veille. Il doit aussi apprendre à connaître les failles de sa propre base, ses propres failles, conscient de ses fragilités, il saura mieux les contourner. Et s'il connaît un camarade veilleur plus expérimenté que lui, humblement, il ne va pas hésiter à apprendre de lui pour tirer un maximum d'expérience. Au fond, le veilleur, il sait qu'il peut tomber rapidement. C'est bien pour cela qu'il s'équipe autant pour résister lors du danger. Alors, sommes-nous conscients en tant que chrétiens que notre adversaire, le diable, rôde comme ce lion rugissant? Comme le veilleur était conscient de ses ennemis sur le front, de sa propre fragilité. Sommes-nous aussi conscients, effectivement, de notre propre fragilité? Que la vie est éphémère, comme Pierre nous invite à réfléchir à ça dans tout son épître. Mais Pierre, il va plus loin encore, il nous oriente à ne pas regarder seulement à notre tranchée, même si c'est vrai que notre obéissance à Dieu va être source d'injustice, de souffrance, mais tout en prenant soin de notre entourage direct, notre famille, notre église, nous sommes appelés à regarder plus loin en considérant les souffrances imposées à nos frères et sœurs dans le monde. Au verset 9, c'est ce que Pierre nous dit. Ça peut être des chrétiens qui vivent des défis différents à travers le monde, mais qui ont ce même sentiment que nous d'être des exilés en tant que chrétiens. Cela peut prendre des formes différentes. Peut-être sommes-nous moqués en France pour notre foi. Dans d'autres pays, on risque d'être séparé de sa famille. Et que dire des pays où on risque même sa vie à cause de Jésus-Christ? Alors ça peut nous effrayer, mais au contraire, Pierre, il nous dit que c'est un sujet de joie de penser à nos frères, parce qu'on va pouvoir user de compassion et prier pour eux, pour leur protection. N'oubliez pas les frères au loin. On pensait à Mayotte ce matin. Et je voudrais qu'on s'attarde à nouveau sur le danger de l'orgueil. L'orgueil qui guette chaque chrétien. Et au lieu de nous considérer comme des êtres autosuffisants, super spirituels, Dieu nous considère au contraire comme des êtres fragiles, dépendants. Il utilise une image pour cela, l'image de la brebis ayant besoin d'un berger. Et une brebis, c'est pas un titre très confortable. On aurait préféré qu'il nous appelle autrement. Mais il y a du vrai, je pense, là-dedans. Jugez-en plutôt. Alors pour qu'elle soit plus vraie, cette vidéo, faudrait la repasser une quinzaine ou une vingtaine de fois. Ça serait plus le reflet de notre vie. Mais on va s'arrêter juste à une fois pour ce matin. Alors si vous avez ri parce que vous avez l'impression de regarder votre miroir, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Mais c'est tellement le reflet de la vie chrétienne. On est bloqué à cause de la désobéissance. Dans un trou, Dieu prend le temps de nous relever. Ça y est, relevé, nous courons à nouveau, joyeusement, naïvement, et l'instant d'après, nous tombons, pas dans un autre problème, dans le même problème, là, la même tranchée. Je trouvais cette vidéo parlante. Alors, convaincu que nous sommes souvent bêtes comme cette brebis, regardez maintenant comment Dieu nous protège par sa promesse de grâce. Yes. Alors, j'ai l'habitude de faire quelques matchs de foot de temps en temps. Et lorsque je commence un match, je sais à quelle heure je termine. Je sais que pendant environ 90 minutes, je vais souffrir. Et je sais aussi de quelle souffrance je vais souffrir. Plus avec les arrêts de jeu parfois. Mais je sais aussi, et ça va me faire tenir, je sais qu'il y a une fin. Et parfois même une fin glorieuse quand on gagne. Mais lorsqu'au chapitre 4, quand on revient en arrière dans l'épître, verset 13, Pierre nous invitait à nous réjouir de la part que nous prenions aux souffrances de Christ, il me semble que ce n'est pas le même registre de souffrance. Nous ne connaissons pas la durée de nos souffrances en tant que chrétiens, ni même les circonstances. Alors ça nous fatigue et ça peut nous décourager, nous questionner sur « est-ce que je dois continuer ?» Mais la suite du verset 13 au chapitre 4, elle est plus intense et glorieuse qu'une victoire de match de foot. Parce que s'il est nécessaire de tenir bon malgré les souffrances de la vie chrétienne, c'est, je cite, « afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée ». Autrement dit, si vous êtes tenté d'abandonner ou si vous posez la question « est-ce que je dois continuer à persévérer dans la foi ?» Souvenez-vous que Pierre a écrit cette lettre à des chrétiens qui se sentaient, comme nous, seuls, dispersés, fatigués. Et nous reprenons le chapitre 5, au verset 12, Pierre précise le but principal de la lettre. C'est pour nous encourager et pour nous attester que la grâce de Dieu à laquelle nous sommes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alors, quel réconfort. Quand, à la fin du match de ma vie, après tant d'efforts, tant de plumes laissées, à cause de notre foi en Christ, nous pouvons dire aussi la grâce de Dieu à laquelle je suis resté attaché est la véritable. Ou comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Peut-être vous n'êtes plus motivé à aller gagner un match de foot après ça. Et c'est le but. Quelle merveilleuse espérance nous avons. Et dès maintenant, vous savez en qui vous avez cru. Quelle paix et quelle assurance de marcher sous sa protection, sous la protection du Dieu vivant, tenant dans une foi ferme en ses promesses. Alors maintenant que nous connaissons ce Dieu qui nous protège et nous sauve, comment ne pouvons-nous pas désormais, c'est la question, comment ne pouvons-nous pas désormais vivre ces conséquences, les conséquences de ce si grand salut? Et ce salut si merveilleux, je rappelle, ça repose non sur notre obéissance, sur l'obéissance de Jésus-Christ, ça repose non sur nos sentiments fluctuants, mais sur le fait historique que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est glorieux. Je vous propose deux applications pour notre quotidien. Un général lié plutôt à l'épître entière et un deuxième plutôt au chapitre 5. Une application générale pourrait être de réfléchir à notre agenda en nous rappelant la promesse de grâce, l'évangile, et notamment que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Des fois, nous enchaînons les semaines, notre agenda se boucle et nous ne réfléchissons pas que nous sommes que de passage sur cette terre. Ayons plus d'ambition pour les trésors célestes, ceux qui ne peuvent pas rouiller, quand nous nous engageons notamment dans une nouvelle activité. Et continuons aussi de cette hospitalité qui est chaleureuse à l'EBTM, les uns envers les autres. Comme plusieurs nous ont accueillis quand nous venions d'arriver, ça nous a permis de voir qu'on n'était pas si seul que ça. On est seul, mais ensemble. L'hospitalité, les uns envers les autres, envers les nouveaux qui découvrent l'Évangile. Et la deuxième application, plutôt liée au chapitre 5, prions pour nos responsables d'Église. C'est des bénédictions pour nous. Et nos prières et notre comportement va être une bénédiction pour eux. Va les amener à remplir cette belle tâche joyeusement. Non par contrainte. On a envie qu'ils soient heureux de prendre soin de nous quotidiennement. Et de continuer à annoncer fidèlement la parole de Dieu. Je vous laisse avec ce verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà notre espérance. Prions. Seigneur, merci pour ta venue dans ce monde. Merci pour ta mort à cause de nos fautes, pour nous pardonner nos péchés. Seigneur, alors que nous ne méritions que ta colère, c'est vrai, tu es venu comme ce paratonnerre qui nous empêche de voir la condamnation, la colère de Dieu tomber sur nous, mais au contraire, la condamnation est tombée sur Jésus-Christ. Nous te louons de ça, Seigneur. Nous te louons de cette espérance en la foi véritable, comme Pierre nous encourage à la comprendre. Et Seigneur, nous te prions pour nos responsables d'Église. Nous te prions pour cet après-midi encore, pour l'unité dans la foi, l'hospitalité. Que le BTM soit trouvé comme uni d'un seul cœur, d'une même âme, dans l'hospitalité, dans l'obéissance à ta parole. Que nous puissions te faire honneur, que nous puissions refléter et être un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi, Seigneur. Et nous, je te prie aussi pour chacun des membres qui puissent se tourner vers toi, se décharger sur toi de tous leurs soucis, parce que tu prends soin de toi-même, Seigneur. Nous te prions encore pour les frères au loin, à Mayotte, et tous les soutiens aussi de BTM, les frères que nous soutenons. Nous te prions pour qu'ils puissent être affermis, rendus inébranlables, Seigneur, dans cette foi en Jésus-Christ. Merci pour le Dieu vivant que tu es, et parce que tu te révèles concrètement à travers ton Église qui manifeste l'amour de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.